La grande matinale, le mag, c'est parti pour une heure de culture et de société avec Charline Vanhoenacker tout à l'heure qui détricote l'audition de Rachida Dati à la commission d'enquête sur l'audiovisuel public avec Daphné Burki qui nous rejoindra et sa nouvelle tête, la chanteuse lyrique Amina Idriss, une voix magnifique de soprano. Vers 9h30, bien vous retrouverez le débat du jour, l'affaire Epstein devient mondiale. Des révélations majeures en découlent, seulement voilà, des visages de victimes sont jetés en pâture au grand public, des commentateurs basculent dans le complotisme. Fallait-il, oui ou non, divulguer 3,5 millions de documents? Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Les chansons d'amour et les chansons populaires ont un pouvoir extraordinaire. Quand elles parlent d'amour, en quatre notes, elles nous font revivre l'être aimé, ses sourires, ses baisers. Tous les amoureux ont leur chanson. Tomber dessus à la radio, c'est se laisser déborder d'émotions 10, 20, 30, 40 ans après. J'ai face à moi Patrick Bruel, qui joue dans une pièce très réussie. Il y est question d'un vieux couple, de la mémoire des premières booms et des premiers slows. On se marre, mais quand on les réentend, les acteurs plongent, les spectateurs plongent et les souvenirs nous envahissent. J'ai face à moi Patrick Bruel qui va aussi remonter sur scène pour les 35 ans d'un album culte. Il va rechanter Casser la voix, place des grands hommes, et je te le dis quand même. Les places se sont vendues en 3 minutes. Quand je vous dis que les chansons populaires ont un pouvoir extraordinaire, portrait numéro 85.
Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver.
Et parmi les slows de la pièce, il y a celui-ci. Bonjour Patrick Bruel.
Bonjour Sonia.
Deuxième partie, c'est donc ce texte très subtil et très enlevé, signé Samuel Benchetrit. Vous êtes sur scène avec Marine Delterme et Stéphane Fraisse au théâtre Édouard VII. On va reparler d'elle, de lui et de ce théâtre. Ça se joue jusqu'en juin, j'y étais mardi soir, la salle était archi comble, il y avait des gens qui cherchaient des places sur le trottoir. Peut-être qu'il y en a encore quelques-unes à réserver, mais dépêchez-vous. Dans votre carrière, vous avez peu joué au théâtre, bien moins qu'à l'écran. Évidemment, il y a eu beaucoup moins de pièces que de concerts. Il n'empêche que le public vient voir Bruel, l'acteur. Vraiment. Et c'est ça qu'on va essayer de chercher à comprendre. D'abord, ça commence par une légende, une supercherie, à mon avis, débusquée dans votre page Wikipédia, par mes soins.
Par exemple.
Je vous lis. 1965, il se passionne pour le théâtre après une représentation de L'Idiot de Dostoïevski.
Oui, absolument.
Vous aviez 6 ans.
J'avais 6 ans et on avait un ami de la famille.
Parce que c'est sérieux.
Oui, absolument, tout à fait.
Vous aviez 6 ans.
J'avais 6 ans et on avait Marie-Pierre de Gérando, qui était un acteur et ami de mon beau-père, le mari de ma mère, et qui jouait donc un tout petit rôle. Et nous, on allait voir l'ami qui jouait au théâtre. Et donc, ne pouvant pas me faire garder...
À 6 ans, on vous emmène voir Dostoïevski.
On m'emmène voir L'Idiot. Et je me retrouve au théâtre de l'Atelier, devant Philippe Avron, Charles Denner, Catherine Sellers, et ce texte de Dostoïevski, qui, pourquoi est-ce qu'il vient interpeller un enfant de 6 ans? Je n'en sais rien, mais ça m'a interpellé. Et des images me reviennent encore. Mes images me reviennent encore aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui se déclenche. Et j'aime le spectacle. J'aime l'idée d'aller au spectacle. J'aime l'idée du spectacle vivant. Et ma maman...
Mais alors, qui va vous apprendre le métier, le théâtre? Qui va vous l'apprendre, en réalité?
C'est le théâtre qui va apprendre le théâtre. Ce sont les textes, c'est de lire. C'est que ma mère m'emmène voir des spectacles. Et c'est ma mère qui va m'emmener... Par exemple, à l'opéra, on est à Vérone, quand j'ai 8 ans, elle m'emmène dans les arènes de Vérone voir Aïda. L'année suivante, on est à Rome et je dis, ils ont un opéra ici aussi. Elle me dit, bah oui, il y a les Thermes de Caracalla et on va voir Tosca. J'ai cette chance de grandir avec une maman qui m'emmène sur des terrains culturels absolument extraordinaires.
Ça veut dire que ça, comme expérience de spectateur, c'est venu avant les pop stars, avant les chanteurs de rock sur scène?
Oui.
Ouais.
Absolument. C'est les premières. Oui, enfin, voilà, ces années-là sont importantes. Reggiani va être très important en 69. Je vais voir Reggiani à Bobino pour la première fois. J'ai 10 ans. Et ça, ça va me donner envie de chanter.
Enfin,
ça
à va... 22 ans, vous jouez dans le Charimari.
Voilà, ça, c'était et ma moi... première pièce.
Mais oui, mais quand on lit l'argument, c'est ouais. absolument génial. C'est un autre temps, c'est au théâtre ce soir. Gilbert trompe Marie-Colette. Le fils de Gilbert, voyant son père succomber au démon de midi, décide, avec la complicité d'un copain et de Marie-Colette, de lui tendre un piège. Avec Micheline Boudet dans le rôle de Marie-Colette et avec Pierre Tornade dans le rôle de Gilbert, qui étaient des très bons comédiens de l'époque. Mais ouais. c'est extraordinaire, c'est au théâtre ce soir.
Et c'était la grande chance de rencontrer Pierrette Bruno, qui me reçoit dans son salon et me fait passer une espèce d'audition, me propose l'autre rôle, qui était le rôle principal, et moi je lis ce rôle-là, qui était beaucoup moins important, mais qui était très drôle, et je dis, mais je voudrais faire celui-là. Elle me dit, mais tu y penses pas. Elle me dit, essaye. Et j'ai essayé, et ça les a fait marrer, et du coup j'ai fait ce rôle-là. Et ça a été extraordinaire, on a joué deux ans, cette pièce qui a été un énorme triomphe. C'était le bonheur d'être sur les planches, d'apprendre le métier. J'ai appris mon métier sur le tas. Ouais.
Alors, mardi soir, j'étais assise au rang N, théâtre Édouard VII. J'ai posé la question à tous les spectateurs assis à côté de moi. Pourquoi vous avez acheté un billet? Qu'est-ce qui vous a donné envie de voir cette pièce? Ils m'ont répondu Bruel, acteur, y compris une jeune fille de 26 ans, à qui j'ai dit, mais Bruel, c'est pas exactement ta génération, c'était l'idole de ma génération et pas de la tienne. Elle m'a répondu ça.
Ah, salut Pierre.
Salut la queue. Ça va?
Ça devait être un dîner de famille comme on en a l'habitude.
Mais fais voir les vêtements quand même. Mon si petit est déjà si riche. Bartholomé.
Non.
Balthazar.
Non.
Donne-nous un indice.
Non.
Mathieu ou Paul?
C'est pas un apôtre.
Mais Paul non plus.
Bon, on n'est peut-être pas non plus obligé de s'engueuler à chaque dîner.
Mais c'est vrai, on n'est pas obligé, mais tu n'as pas répondu à ma question. Donc plutôt qu'Apollin et Myrtille, c'est ridicule.
C'est très bien que c'est pas des prénoms normaux quand même. Apollin et Myrtille, on dirait une chanson de Bobby Lapointe.
243 fois au théâtre Édouard VII. On est en 2010 et ça s'appelle Le Prénom. C'est un triomphe, mais c'est un triomphe du théâtre populaire qui va devenir un film. 3,5 millions d'entrées. Aujourd'hui, diffusé, rediffusé, vu, revu à la télévision. Et la jeune fille de 26 ans, elle l'a vu à la télé.
Oui, mais Le Prénom est un exemple de rire d'intelligence, de profondeur, de mise en perspective, de mise en abîme de toute une famille, sur ce qui peut être un drame et qui provoque le rire absolument phénoménal. Et surtout une identification. C'est la force de ces pièces de théâtre, tout comme deuxième partie, c'est ouais. que quand vous sortez de la pièce, ouais. vous allez ensuite, évidemment, débattre avec votre entourage, avec votre femme ou avec votre mari, sur l'état de votre couple et sur le devenir de votre couple. C'est obligatoire, c'est une
Imagine
réflexion. C'est,
alors, ah oui. J'étais seule quand
c'est une réflexion sur l'usure du couple. Et puis sur la possibilité de s'accorder une deuxième chance, une deuxième vie ou une deuxième partie de vie.
Mais ce qui est très intéressant avec Le Prénom et ce dont je me suis rendu compte mardi soir, c'est qu'en réalité, il y a deux Bruelmania. Et je ne m'étais jamais rendu compte qu'il y avait eu deux Bruelmania. Il y a la Bruelmania du chanteur à belle gueule et à belle voix, mais il y a aussi la Bruelmania de Bruel sur scène. Et si les places se sont vendues aussi vite pour la pièce de Ben Chetrit, c'est la trace du prénom. C'est que tout le monde veut revivre la magie du prénom.
Il y a de ça, il y a aussi la remarquable aventure de Stéphane Fraisse dans Le Cercle des Poètes Disparus.
C'est vrai.
Qui draine beaucoup, beaucoup de gens, parce qu'il a été, c'était formidable. Hein. Et puis le trio qu'on forme avec Marine, il y a quelque chose qui se dégage. Et puis Ben Chetrit en est à sa quatrième ou cinquième pièce à grand succès, et à Édouard VII aussi. Et puis Ladislas Chola rassure par sa mise en scène. Et c'est vrai que c'est un groupe. Et c'est ce que j'aime aussi dans le principe de se mettre au théâtre, c'est cet esprit de troupe, de groupe, et de mise au service, aux dispositions d'une œuvre, d'un metteur en scène, d'une troupe, d'une histoire. Parce que quand je chante, évidemment, tous les projecteurs sont braqués sur moi, je décide de tout, je mets tout en scène, et puis je parle de moi.
D'ailleurs, il y a un lien entre les deux voilà. Bruelmania, c'est le prénom.
Voilà, et le prénom...
C'est Patrick.
Voilà, c'est Patrick.
C'est resté un marqueur dans la mémoire collective française, c'est Patrick, c'est votre prénom. Donc c'est assez drôle que
c'est
même...
C'est vrai que c'était un
vous soyez... Bah oui, c'est un lien, c'est le prénom, c'est Patrick.
C'est ma
faute. T'es loin, t'es tellement loin de moi. La biguine, je la danse pas. J'ai le cœur
Ce qui est fou, j'ai pensé pendant que vous passiez ces chansons, qui sont donc les chansons de la bande originale de la pièce et la bande originale de nos vies, comme vous le disiez tout à l'heure. Et c'est drôle que les chansons sont évidemment des Madeleines de Proust qui sont adaptées à des moments, à des périodes. Et à partir de maintenant, message personnel ne sera plus jamais dans ma tête ce que c'était avant. À partir de maintenant, ça sera toujours ce monologue que je fais à la fin de cette pièce. Et à chaque fois que les premières notes se déclenchent, j'ai une émotion qui est très forte et qui sera maintenant à vie très forte, liée à ce moment de la pièce. Tout comme la chanson de Laurent, enfin le cœur grenadine, c'est à une résonance immédiate.
Parce que voilà, il faut qu'on parle de ce personnage que vous incarnez dans deuxième partie. Il a un problème avec les slows de sa jeunesse. Il est resté bloqué. Voilà. Donc voilà un couple de quinquagénaires très bourgeois qui voient débarquer un soir à minuit un type qu'ils n'ont pas vu depuis les années collège, c'est-à-dire depuis 39 ans, 8 mois et 2 semaines. Ce type, c'est vous, il est affreusement mal habillé, il a l'air complètement benêt, il se balade avec un sac de sport et une urne funéraire, et pourtant, il sera question d'amour et de romantisme tout au long de cette pièce. D'abord, le choc du pull jaune, quand vous ouvrez la porte et que vous entrez sur scène, que vous êtes applaudi d'ailleurs, je pense que personne ne vous a jamais vu fagoter avec un pull aussi laid, mais c'est très malin, c'est-à-dire qu'en fait on crée un choc visuel et on se dit tiens, Bruel à contre-emploi.
Oui, c'est-à-dire que c'était très intéressant pour moi d'aller dans un personnage qui déjà me faisait sortir de ma zone de confort et qui permettait un très beau voyage initiatique à l'intérieur d'un, j'allais dire, d'une forme de carcan, parce que ce personnage, à 15 ans, a connu un premier émoi amoureux, suivi d'un deuxième qui va devenir sa femme. Et donc, et il va vivre quelque chose de tellement intense et de tellement fermé avec ce cercle, qu'il ne laisse... C'est un personnage qui est très pur, qui est
très... C'est un personnage qui est aussi borné, obsessionnel, oui. Inquiétant.
Alors, il y a cette partie un peu parce qu'on se demande ce qu'il vient faire, qu'est-ce qu'il fait là, mais c'est quelqu'un qui que la société n'a pas abîmé, il y avait une espèce de voile comme ça autour de lui, et il est dans une espèce de pureté qui fait penser un peu à ces personnages de Capra. Moi je pense beaucoup à James Stewart dans la vie est belle,
oui c'est vrai,
et qui reste avec une espèce de pureté et de Il est. Je cherche toujours ce mot. Il a quelque chose de.
Mais ce qui est très joli aussi, c'est que il renvoie les personnages à des souvenirs ou à des non-souvenirs de leurs années collège. Ce qui est assez joli aussi, c'est que vous êtes sur scène avec des amis de 40 ans, Stéphane Fraisse et Marine Delterm. Ce sont des amis de 40 ans. Et donc vous avez aussi tous les trois des souvenirs d'il y a 40 ans.
Oui. Absolument, on se souvient, Stéphane et moi on se connaît depuis qu'on a 19 ans, on habitait à une rue l'un de l'autre, et quant à Marine, elle a joué dans un clip avec moi, qui en plus parlait de théâtre, en 1994. Donc c'est vrai qu'on se connaît tous depuis très longtemps, donc il y a cette complicité qui est sur la scène.
Et le souvenir des premières booms, croyez-vous ?
Ah ben bien sûr
qu'on se souvient.
Il est intact ?
Intact, moi aussi.
On se souvient des premières booms, on se souvient même des premières chansons. Les premières chansons, des premières booms.
Des premiers slows.
Des premiers slows, c'était What a Shade of Pearl, c'était When a Man Loves a Woman, Percy Sledge. Même si c'était des chansons qui n'étaient pas à la mode, mais qui dans nos booms marchaient. Non, les chansons de l'époque, moi je l'ai dit l'autre jour, c'est La Maladie d'amour de Sardou a pris une place très folle dans mon cœur.
Moi, c'était Still Loving You. Moi, c'était Scorpion.
Scorpion.
Moi, c'était Scorpion et Téléphone, les chansons de mes booms. Voilà.
C'est vrai.
Ouais,
c'est
au milieu des années 80.
C'est ça.
Quand vous commenciez à sortir des disques.
Voilà.
Mais voilà, c'est resté gravé et c'est évidemment ça qui se passe entre les comédiens sur scène et le public dans la salle.
Parce que ces chansons nous ont marqué de par les événements qui s'y sont produits, mais aussi parce qu'elles racontent. Ce sont des petits joyaux de choses extrêmement personnelles qui deviennent totalement universelles.
Donc.
Ah bah voilà.
Véridique. J'ai dansé des slows en troisième sur votre chanson.
On s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je l'ai trop dit. Mais je te lis quand même.
C'est-à-dire que quand on pense à cette chanson et à son histoire, on comprend,
c'est quoi son histoire,
on comprend l'histoire de beaucoup de chansons. C'est-à-dire que c'est une histoire absolument vraie. C'est une histoire absolument vécue, avec l'envie de dire à l'autre, il ne faut pas que notre rupture ressemble à quelque chose qui salirait ce qui a été notre histoire.
C'était qui?
Je vous le dirai hors antenne.
Ah non.
Non. Mais
c'était vraiment pour une fille.
Ah oui, complètement. Mais toutes mes chansons sont autobiographiques, toutes. Elles ramènent toutes à quelqu'un. Et cette chanson écrite à 4h du matin près d'un piano dans un moment forcément un peu triste et qui est tellement personnel, voir que cette chanson a traversé le cœur des gens et rentré dans les histoires des gens parce qu'en fait ça raconte leur histoire, c'est ce caractère magique qui fait de cette chose si personnelle quelque chose d'aussi universel qui reste toujours presque inexpliqué.
Vous avez décidé de remonter sur scène avec l'album. Alors regarde, dans lequel il y a, je te le dis quand même, les places se sont vendues en 3 minutes. Vous avez dit, bon bah c'est pas grave, le cirque d'hiver est plein, 3 fois, on va faire un zénith, ça s'est vendu en 7 minutes.
Une minute. Ouais. Une minute, ça m'était jamais arrivé dans toute ma carrière. Et bah fort de ça, on va faire une tournée. On va faire une tournée à leur regard à partir du 2 octobre. On part, on fait une grosse tournée.
En fait,
on répond à cette demande vraiment, et puis qui me fait très très plaisir évidemment.
C'est ce que j'allais dire. À qui vous faites plaisir?
Ah bah moi en premier.
Ouais, c'est ça.
À moi en premier, et puis à.
Vous revenez à vos 30 ans. Vous aviez 30 ans.
Ouais.
C'est le plus bel âge.
C'est un bel âge, mais je crois que tous les âges sont beaux. Tous les âges portent quelque chose de riche et d'intense.
Mais vos 30 ans, vous auriez envie de revivre vos 30 ans?
Oui, bien sûr. Et on se dit, si c'était à refaire, est-ce que je le referais de la même façon? Est-ce que je revivrais de la même façon? Peut-être que j'essaierais de prendre un petit peu plus de plaisir à ce qui m'était arrivé, parce qu'à ce moment-là, peut-être que j'étais un peu plus tendu par rapport à la perspective que ça représentait. C'était quand même une grosse déflagration dans une vie de voir un tel phénomène de société, et un phénomène de société qui prend presque le pas sur le phénomène artistique. J'avais à cœur de mettre en avant le pianiste que j'étais, le guitariste que j'étais, l'auteur-compositeur, l'interprète, et puis l'artiste. Et c'est vrai que ce caractère de société me faisait peur.
35 ans après, vous pourriez ne plus du tout avoir envie de casser la voix. Vous pourriez se dire, cette chanson, elle m'a collé à la peau, elle a été parodiée, elle a été détournée, elle a été reprise aussi par des grandes voix françaises.
J'ai plus que jamais envie de me casser la voix à tout égard, de toute façon. Cette chanson était un cri de quelqu'un qui cherche ses vêtements et qui cherche sa place, mais qui cherche sa place au grand terme, qui cherche même sa place dans la société et devant l'agression pour présenter la société à un certain moment. Donc cette chanson, elle sera toujours d'actualité, elle sera toujours elle est la mère de plein d'autres chansons que j'ai pu faire, comme dans mon dernier album, une chanson qui s'appelle On en parle.
Ouais.
C'est mon casser la voix de 2022, reprendre casser la voix qu'on réarrange. Mais là, pour cette tournée à leur regard, on va prendre les arrangements d'origine, on va prendre vraiment
c'est revival total.
Les arrangements
de
base
total.
on va rentrer dans la mise en scène, on va même rentrer sur des chansons que je faisais à l'époque. Il y aura aussi les chansons que j'écrivais pour d'autres à l'époque.
Et vous savez quoi? Vous allez même... En fait, il va aussi se passer quelque chose entre vous et la salle, parce que dans la salle, il y aura ceux qui étaient là dans la salle il y a 30 ans. probablement.
Ah bah oui, oui, bah probablement. Je sais qu'ils sont là.
Ils sont là.
Bah je leur ai dit, hein, vous ressortez les bandanas pour réviser les paroles et on ouvre les fosses.
Ressortez les bandanas. Bon, donc, vous l'avez compris, deuxième partie, Samuel Benchetrit avec Marine Delterme, Stéphane Fraisse, c'est au théâtre Édouard VII avec Patrick Bruel, c'est jusqu'en juin, je pense qu'il reste encore quelques places. Et pour conclure cet entretien, eh ben, on a choisi Barbara, vous l'aimez plus que tout, non ?
Ben, plus que tout.
Plus que tout.
Oui, ouais. Elle qui m'envoyait des fax pendant ce Zénith 90, justement.
Elle vous envoyait des fax ?
Oui, on échangeait beaucoup par fax, elle m'encourageait, elle me rassurait, et elle terminait ses fax, très souvent, je pense à vous, et c'est pour ça que j'avais appelé mon album en hommage à Barbara, très souvent, je pense à vous. Et elle m'envoyait des fax, puis des coups de téléphone. C'était quelqu'un qui a été très chaleureuse avec moi et qui a vu des choses de manière très profonde et qui expliquait peut-être pourquoi, à l'âge de 8 ans, quand ma mère me fait découvrir Barbara, j'ai un coup de cœur et il y a une identification peut-être sur mes blessures qui, évidemment, par la suite, je saurais qu'elles n'ont absolument rien à voir, bien sûr, avec ce qu'elle a pu endurer.
Merci Patrick Bruel.
Merci à vous.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, si mi la ré sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Note courte et facile, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais là malhabile, si mi la ré sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile, fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si sol do fa. Mon ami, ô ma douce, ô ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa.
Ma chanson préférée de Barbara, elle a mis les larmes aux yeux de Patrick Bruel. Vous êtes dans le magazine de la Grande Matinale et on s'en va tranquillement jusqu'à 10h, à 9h45, Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter, je vous propose une spéciale Rachida Dati.
Ah oui, elle a déplié le canard enchaîné.
Mais regardez,
ses yeux.
Elle est dans toutes les pages, j'ai cru qu'elle avait racheté le journal.
Et puis Daphné Burki nous rejoindra et nous fera vibrer au son d'une jeune soprano. Mais là, il est 9h presque 30 minutes sur France Inter et c'est le débat du jour.
J'ai appris les crimes abominables commis par lui. Je suis tombé de l'armoire. Comment cet homme si courtois, si charmant, si généreux avait pu être perpétré de pareilles abominations ? Et évidemment, nous avons coupé court avec lui tout aussitôt.
Jack Lang, ancien ministre de la Culture et président de l'Institut du Monde Arabe, sommet de s'expliquer. L'affaire Epstein, du nom de ce milliardaire américain accusé de trafic sexuel, devient mondiale. Des révélations majeures qui touchent en cascade, par exemple, l'Angleterre et la Norvège. Seulement voilà, des noms de victimes sont jetés aussi en pâture, le grand public s'y perd. Certains commentateurs virent au complotisme. Alors, fallait-il, oui ou non, divulguer 3,5 millions de documents.
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Et on en débat ce matin avec Frédéric Sandretto. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante en civilisation américaine à Sciences Po à Paris. Fabrice Arfi face à vous. J'ai voulu tout mettre dans un même mot valise. Bonjour Fabrice Arfi.
Bonjour.
Journaliste à Mediapart. Pour discuter hein, de 3,5 millions de documents, dont 2 000 vidéos, 180 000 images qui sont, je le rappelle, consultable en ligne par nous tous. Hein. Pas besoin d'accès privilégié, pas besoin d'accréditation, pas besoin de payer, besoin de rien. Frédéric Sandretto, vous avez publié dans The Conversation un article, là aussi en accès libre, passionnant, intitulé « Les fichiers Epstein, la boîte de Pandore de la transparence américaine ». Boîte de Pandore, pourquoi ?
Je pense que c'était une transparence qui était vraiment attendu. Le président Trump a énormément mis des barrières finalement pour divulguer cette information, pour la déclassifier. Il a fallu attendre le Transparency Act de novembre dernier. Mais en même temps, qu'on ouvre, qu'on a accès à tous ces documents, moi je reste finalement choquée par le fait qu'on n'a pas vraiment de réponse. On a des pistes, on a des indices, on a des noms. On a un amalgame de correspondances, de notes internes, mais on n'a aucune réponse.
C'est ça. Donc vous vous dites, il y avait un flou qui suscitait la méfiance, le soupçon, pourquoi est-ce qu'on ne publie pas les documents ? Et maintenant qu'on a 3,5 millions de documents dans lesquels tout le monde se noie et se perd, eh ben, y a toujours du flou, toujours de la méfiance, toujours de la suspicion.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce compromis à trouver entre le droit à l'information, qui est pour les victimes, pour l'opinion publique, et puis le devoir de prudence. Parce que finalement, qu'est-ce qui constitue une preuve recevable juridiquement et qu'est-ce qui n'est simplement qu'un indice ? Donc je pense qu'on a des pistes, on a des nouveaux noms, mais la transparence, elle est en demi-teinte.
Bon, alors Fabrice Arfi fronce déjà les sourcils. Moi, je le vois, mais vous allez l'entendre. Est-ce qu'il y a un devoir de prudence, selon vous, Fabrice Arfi, avant de balancer 3,5 millions de documents, dont des photos et des vidéos au grand public ?
Je suis de celles et ceux qui considèrent que le droit à l'information est indissociable du devoir de prudence. Et que précisément, l'information, c'est la prudence, la vérification, le temps long, le respect du contradictoire et la publication d'informations vérifiées et d'intérêt général. C'est la raison pour laquelle les Epstein Files constituent à la fois, et je pense qu'il faut tenir les deux bouts de mon point de vue face en effet à cet événement mondial qui a quelque chose d'inédit dans ce côté raz-de-marée qui submerge.
Alors là, c'est la seule chose sur laquelle vous êtes absolument d'accord. Totalement inédit.
C'est inédit.
Ça ne s'est jamais produit.
Du point de vue numérique, oui, absolument.
Ouais. Les deux bouts dont je parle, c'est à la fois un champ de boue et c'est aussi une mine d'or. Les Epstein Files. C'est un champ de boue parce qu'on a mis de la nitroglycérine entre les mains de la population mondiale qui va chercher la confirmation de ses fantasmes, parfois complotistes, de son antisémitisme.
Mais on a bien fait ou on n'a pas bien fait de le faire ?
Mais en fait, c'est pas on. La libération, la divulgation de ces documents est le produit d'un mensonge et d'une opacité qui les ont précédés. Donald Trump n'a cessé de dire « Quand je serai président, je vais divulguer tous les documents ». Et moi, Epstein, je ne le connaissais pas. Grâce au travail de la presse et de la justice, on a appris qu'il mentait sur sa relation avec Epstein. Et quand il s'est agi de rendre public les documents, ce qu'il avait promis, c'était d'ailleurs l'un des ferments de sa base dite MAGA, il ne l'a pas fait. Et donc, il y a eu un bras de fer, je parle sous votre contrôle, avec le Congrès américain, les deux chambres, qui ont massivement voté la libération de ces documents. Et le département de la justice américaine à libérer n'importe comment 3 millions de documents. N'importe comment dans le sens où ils n'ont pas tout libéré, ils n'ont pas tout rendu public, contrairement aux injonctions du Congrès. Donc ça ne fait que rajouter du trouble et des questions
et
du complotisme. Pourquoi tout ce qui concerne les morts, la pornographie et les abus physiques, ce sont les mots utilisés par le département de la justice, ne sont pas rendus publics. Et dans ce qui a été rendu public, il y a des passages qui sont caviardés, expurgés de manière incompréhensible. Il y a des noms de victimes qui sont jetés en pâture, comme ça a été dit. Il y a des noms de personnes qui ont l'air complices quand on lit toute cette littérature, qui, eux, sont protégés. Il y a des données personnelles qui, dans un document, sont protégées, mais dans la réplique du document, sont accessibles, des numéros de portable, des numéros de mail, etc. Pour autant, le propre du journalisme, c'est d'aller chercher l'info là où elle est. Et donc de plonger là-dedans patiemment, de ne pas considérer qu'un mail et l'alpha et l'oméga d'une démonstration journalistique. Dans un mail, on peut dire n'importe quoi, on peut mentir, on peut se tromper, qu'il faut contextualiser, qu'il faut recouper, qu'il
donc
faut...
Pour vous, quand même qu'on comprenne, c'est quand même crucial, c'est une avancée majeure qu'on ait enfin accès à ces archives.
Mais pour moi, ce qui est une avancée majeure, c'est que cette libération de documents est un défi au journalisme et que, bien sûr, il suffit d'ouvrir la bonne presse, entre guillemets, du monde entier.
Oui, mais ça, ouais, c'est... Après, bah oui, c'est compliqué.
Bah oui. On va... bah oui, mais c'est ça, non, notre mais... métier. Oui, c'est précisément ça, notre métier.
C'est ça, votre métier.
C'est la une en Angleterre. Alors... Regardez, ce matin, vous ouvrez, c'est la une du monde.fr, leur enquête à partir des Epstein Files, c'est la une du point.fr, où ils se sont mis à 6 ou 7 personnes pour enquêter dessus. Nous, depuis plusieurs jours à Mediapart, on a révélé tous les liens financiers intenses avec la famille Lang, à la fois fille et père. Et ce matin encore, on fait des nouvelles révélations sur des soupçons de la cellule anti-blanchiment de Bercy sur des faits qui étaient inconnus du public et évidemment d'intérêt général. Est-ce qu'on préfère ne pas savoir ou est-ce qu'on préfère savoir ces informations vérifiées?
Sauf que Frédéric Sangreto, vous notez aussi les dommages collatéraux.
Oui, alors là, je me pose en tant qu'universitaire. Donc, on a des données, mais qui sont des données brutes, sans analyse. Vous tapez sur la barre de recherche en haut à droite, vous pouvez taper le nom d'une personnalité, et vous avez, c'est un référencement, en fait, ces fichiers. Les noms apparaissent. Mais qu'est-ce que vous en faites? Et c'est ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. C'est formidable d'avoir pu démocratiser, déclassifier toutes ces informations, mais finalement, quelle est l'analyse qui va ressurgir de ça? Et c'est là où, finalement, je pense que le problème, c'est vraiment distinguer la présence documentaire, le référencement patronymique, et puis l'implication fonctionnelle. Comment les gens peuvent être impliqués? Et c'est là où on a encore tout un gap, où il n'y a pas, finalement, parce que vous êtes référencé, ne veut pas automatiquement signifier que vous êtes impliqué.
C'est ça, donc dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont salis gratuitement, parce que leurs noms sont jetés n'importe comment, oui. et que on sait aujourd'hui qu'avec la mémoire numérique, c'est une tâche qui peut rester à vie avant qu'ils puissent se débattre, se justifier, etc. C'est ce que vous soulevez.
C'est précisément pour cette raison qu'il faut tenir les deux bouts, qu'il faut dire que c'est un champ de boue qui peut être ravageur pour la réputation des gens, et donc le geste citoyen de mon point de vue, c'est de se désabonner de X et de lire la presse, parce que bien sûr, des gens font n'importe quoi, et on voit même des bots sur les réseaux sociaux donner une ampleur à des interprétations complètement délirantes de bouts de mails, parce que certains vont y chercher la réassurance de leurs convictions, parfois même les plus sommaires.
Je vous soumets le titre d'un édito hier ou avant-hier de nos confrères de la RTBF. Est-ce que la transparence ne devient pas l'ennemi de la vérité? C'est-à-dire que à susciter un tel torrent de boue et une telle confusion et à alimenter une forme de dégagisme assez complotiste, est-ce qu'on ne devient pas l'ennemi de la vérité? C'est-à-dire...
Mais en fait, d'abord, moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas beaucoup ce mot de transparence, bien qu'il faille faire avec. J'aime pas ce mot parce que je pense qu'il est inventé par ceux qui n'en veulent pas. La transparence, ça donne l'impression qu'on regarde au travers des gens. Je préférais un mot qui, malheureusement, depuis quelques siècles, a été capté par la valeur marchande, qui est celui de la publicité. C'est ce qui appartient au
rendu
public. C'est ce qui
rendu
doit
public.
Être rendu public parce que ça appartient au public. La transparence, si on reprend ce mot, ça dépend ce qu'on en fait. Et que, bien sûr que ça peut comporter un risque et que ça peut être l'ennemi de la vérité. Mais pour autant, dans le même temps, quand on a pour métier déontologie le journalisme, on voit bien les informations d'intérêt public majeures qui ont été publiées. Regardez ce qui se passe en Angleterre avec cet ancien ministre du Travail, cet ancien ministre de l'Industrie travailliste, dont on apprend que pendant la crise financière de 2008, il donnait des informations gouvernementales en sous-main à Jeffrey Epstein. C'est comme si on assistait à un délit d'initié en direct.
Totalement, au plus haut niveau de l'État.
Ce que nous racontent aussi tous ces documents, parce que bien sûr qu'il faut se garder de toute forme complotiste de lecture de cette histoire. Mais pour autant, Jeffrey Epstein est aussi le produit d'une complaisance gigantesque. Alors, Jeffrey Epstein a été condamné en 2008 pour prostitution de mineurs. À partir de 2015, il y a eu des accusations sérieuses contre lui qui ont même abouti 4 ans plus tard à son arrestation.
Quand on met au jour cette complaisance de la part de toute une élite mondiale ou mondialisée, comme on peut lire, est-ce qu'on nourrit aussi un sentiment de tous pourris, un sentiment élite qui lui aussi peut devenir assez dangereux,
Frédéric? Un sentiment de défiance, sans aucun doute. On perd toute crédibilité finalement dans les puissants, dans les politiques.
Bah oui, mais enfin, si, si, oui. S'il y a des gens en face desquels on peut mettre un prénom, un nom, et dont on peut démontrer qu'ils n'ont pas voulu savoir, qu'ils n'ont pas su, ou qui, en connaissance de cause, ont continué à profiter des libéralités de Jeffrey Epstein, ou l'ont aidé, bah, en fait, on a besoin de le savoir.
On a besoin de... Mais je vous pose cette question parce que nous... c'est une accusation qu'on a souvent portée au travail de Mediapart. C'est-à-dire, est-ce qu'en faisant la transparence, en publiant des faisceaux d'indices, comme on vous avait reproché
mais
de le faire...
On ne publie pas...
Jérôme Cahuzac, mais... je fais référence à d'anciennes affaires et d'anciennes accusations portées contre vous. Je n'ai pas dit que c'était ce que vous faisiez. On a souvent dit que vous alimentiez le tous pourri.
Mais on ne publie pas des faisceaux d'indices. On n'est pas des magistrats. On publie des informations vérifiées d'intérêt public. Ça fait 26 ans que je fais ce métier.
Sur les 3 millions de documents, tous les documents n'ont pas été vérifiés. Ça peut être des anonymes qui mettent des lettres, qui mettent des échanges de mails.
Et on aurait dû sélectionner. Je pense qu'il y aurait
peut-être eu un tri, passez-moi l'expression, des documents qu'on veut mettre en ligne.
Mais je suis...
C'est-à-dire que n'importe quel citoyen lambda peut publier, mais ce n'est pas vérifié.
Je suis d'accord avec ça et je pense que ce débat doit être adressé à Donald Trump lui-même, qui a dit « je vais tout révéler » et qu'il ne le fait pas.
Il a même dit que c'était fini. Il tournait la page.
Et il dit... Cette confusion dont nous parlons aujourd'hui lui profite aujourd'hui.
Absolument.
Lui profite à lui. C'est un piège dont les mâchoires se referment aujourd'hui, précisément contre ceux qui voudraient trier le bon grain de l'ivraie et au milieu de ce bruit sidérant autour de l'affaire Epstein, de trouver le signal de l'information. Mmh. Et pour répondre à votre question, non, on ne publie pas des faisceaux d'indices, on publie des informations. Et je suis désolé, je crois que la démocratie française, l'esprit public se porte mieux d'avoir su que le ministre du budget qui devait lutter contre la fraude fiscale était un fraudeur fiscal, révélation faite grâce à un journal, que ce soit Mediapart ou d'autres, plutôt que le contraire, il me semble.
Et ben voilà. Et ben voilà, Fabrice Arfi et Frédéric Sandretto, fallait-il, oui ou non, laisser donc rendre public 3,5 millions de pages, dont 2000 vidéos et 180 000 images? Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Vous restez avec nous dans un instant. Charline Vanhoenacker et Daphné Burki. Ah, hoy te voy a buscar.
Y amaré.
Bad Bunny, la star du moment, la future star du Super Bowl.
I love this guy.
Vous êtes sur France Inter et vous écoutez le MAG de la grande matinale. Notre émission spéciale d'ailleurs, Bad Bunny, c'est dimanche soir. Hein, c'est 2 heures animées par Camille Diao et Mehdi Mezi et c'est déjà disponible sur l'appli Radio France. Charline, en attendant, vous nous proposez une spéciale Rachida Dati.
Ouais, mais je suis obligée, Sonia. Ah. Regarde, quand on ouvre le canard enchaîné, elle est à toutes les pages. J'ai tout surligné, j'ai vidé un stabilo. Regardez, Rachida Dati est plus présente dans les pages du canard qu'au ministère de la Culture. Cette semaine, le journal, c'est Dati Hebdo. La rédaction envisage de sortir un hors-série, mais juste pour pouvoir laisser de la place aux autres actus, vous voyez. Je sens une torpeur dans ce studio quand on parle de Dati, c'est fou ça. Mais vous en faites pas, elle nous écoute pas. Hein. Ce matin, elle est auditionnée à la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Donc avant de parler d'elle, moi je regarde toujours son agenda. C'est pour éviter qu'elle débarque et qu'elle m'en mette une entre les deux yeux. Oui. Je vous sens fébrile, hein. Je vous sens fébrile. Bon, écoutez, vous en faites pas, elle va défendre bec et ongle le service public, c'est le rapporteur qui va finir en kebab. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans le canard ? D'abord, que Macron et Le Cornu ont les jetons pour lui demander de partir. Ils sont là, vas-y toi, non mais toi vas-y, oh non, moi j'ai déjà eu un truc à l'œil la semaine dernière. Alors finalement, c'est le Premier ministre qui s'y est collé et Dati lui aurait répondu, je ne suis pas ta boniche. Alors, maintenant qu'elle ramasse les poubelles, je dirais que c'est confondant. Hein. Le Cornu a cru qu'en demandant quelque chose à Rachida Dati, elle allait lui obéir en claquant des doigts. Apparemment, il confond Rachida Dati avec Olivier Faure. Et pour la remplacer à la Culture, on apprend que l'Élysée pense à Catherine Pégard. Alors là, on est en studio, on n'entend vraiment rien du tout. Mais je suis sûre que si on ouvre les fenêtres, on va entendre les cris de joie des acteurs de la Culture. Sinon, il y a une ministre qui essaye de se placer, c'est Aurore Berger.
Oui.
Et ça, c'est juste pour faire taire les mauvaises langues qui disent qu'après Dati, ça pouvait jamais être pire. Et là, je vois qu'en régie, il se marre. Oh là là, il se marre. Frère, des gauchias, les techniciens, vraiment. Donc, Catherine Pégard ou Aurore Berger, deux personnalités très différentes. Leur seul point commun, elles ont bossé pour Sarkozy. Si ça, c'est pas encore une preuve que la gauche fait main basse sur la culture. En tout cas, ne demandez surtout pas aux humoristes de voter à Paris. Pour nous, parce que Dati à l'Hôtel de Ville et Aurore Berger à la culture, c'est vraiment bingo. Autre article, autre affaire. Le 30 janvier, les candidats de gauche à Paris font du porte-à-porte dans un immeuble du 7e arrondissement où, évidemment, des proches de Dati préviennent la police. Résultat, il y a une enquête préliminaire pour atteinte à l'intimité de la vie privée, pour du porte-à-porte. Et avec Dati, les rues de Paris seront plus sûres. Hein. Si déjà sonner aux portes, c'est un délit. ART les oreilles à cette vanne, mais bon. Alors, autre délit, critiquer le roi du Maroc. Allez, troisième article, troisième affaire sur Dati. Le canard va finir à la broche. Elle a engueulé le patron du journal La Tribune pour un mauvais papier sur Mohamed VI. Elle trouve encore du temps pour être son attachée de presse en freelance. Et d'ailleurs, si elle échoue à Paris, elle pourra toujours tenter sa chance à la mairie de Marrakech. Hein. Voilà, donc merci à la ministre de la Culture pour tout ce qu'elle apporte au divertissement. Je veux dire, moi, j'ai pas intérêt à ce qu'elle perde tous ses mandats. Vous imaginez faire une chronique satirique quotidienne sans Dati ? Ce serait comme demander à un humoriste de faire rire dans un studio vide.
Ça, presque vide. Ça peut arriver. On vous retrouve samedi, Charline, ouais. 19h15, dans Bistroscopie, avec une grande, grande figure de la littérature haïtienne qui s'appelle Lionel Trouillot.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Il est 9h50 et nous sommes dans le studio de la grande matinale de France Inter. Ma nouvelle tête aujourd'hui s'appelle Amina Idriss. Elle est soprano et fabuleuse actrice sur scène, de celles qui te font croire que l'opéra parle de toi alors que tu es juste en train de beurrer ta tartine. Rien n'était écrit pour elle. Des parents loin du monde musical, des études d'ingénieur pour rassurer tout le monde, spoiler alerte, elle s'ennuie ferme. Alors elle arrête tout pour suivre ce rêve d'enfant, chanter, monter sur scène, devenue avec le temps une nécessité intérieure. Elle n'est pas arrivée à l'opéra en robe à paillettes, hein, par enchantement comme ça. Elle avait déjà un pied dans la musique avec non pas un roulement de tambour, mais un trombone. Bonjour Amina Idriss, bienvenue sur France Inter.
Bonjour.
Non mais on dit souvent que c'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin. Qu'est-ce que vous a appris ce détour par le trombone ?
En fait, c'était complètement par hasard, parce que je voulais toujours jouer et apprendre le violoncelle.
Mais rien à voir.
Rien à voir, je sais, mais je suis allée voir le prof de musique à mon école et je lui demandais, est-ce que je peux prendre des cours de violoncelle ? Il m'a dit non, parce que là, t'as 12 ans, c'est trop tard pour toi d'apprendre cet instrument. Et en plus, j'ai pas besoin de quelqu'un qui joue le violoncelle dans mon orchestre. Par contre, j'ai besoin de quelqu'un qui peut jouer le trombone dans l'orchestre et le jazz band. Alors, il m'a dit, si tu peux apprendre cet instrument pendant 2 semaines pour que tu puisses jouer dans l'orchestre, peut-être, je vais penser après, de te donner des cours de violoncelle.
Chantage.
C'est ça.
Le trombone est arrivé par
le chantage. Trombone.
Mais quand même, quand on parle de souffle, parce que il me semble que ça aide quand même à apprendre à respirer la puissance du souffle,
oui,
ce trombone.
Ça m'a aidé beaucoup. Il faut dire en plus qu'à l'époque, ce n'était pas encore le moment où j'ai commencé à penser d'être chanteuse. Alors
quand même, quand on parle de souffle, mais aussi de nerfs, en ce moment, vous êtes Michaela, oui, dans Carmen de Georges Bizet. Pour ceux qui connaissent pas si bien que ça l'histoire, c'est l'histoire de Michaela, c'est la jeune femme du village, celle qui aime Don José depuis toujours, et elle traverse seule donc une montagne pleine de contrebandiers, mm-hmm, pour venir et lui rappeler qui il est, d'où il vient, et essayer de le ramener vers sa mère mourante. Pendant que tout le monde chante le désir et la jalousie, elle chante la fidélité et le courage. Qu'est-ce qu'elle vous demande à vous, Michaela ?
Ok, je vais dire quelque chose. Peut-être qu'il ne faut pas dire ça.
On peut tout dire ici.
À la radio. Elle n'est pas très intéressante comme personnage.
Et si, il faut dire.
Mais la musique, c'est beau. Hein.
Ça vous transperce.
Ce qu'elle chante, elle a le plus beau moment dans tout l'opéra, à mon avis, pendant son air, dans le 3e acte. Mais même si le personnage que je trouve pas très intéressante, dans cette production, elle est assez forte quand même. On peut imaginer cette fille qui fait tout ce trajet-là pour aller voir son amoureux, elle doit être un peu forte, quoi.
Un peu puissante, oui.
Exactement. Elle n'est pas faible, elle n'est pas...
Vous lui avez ajouté du charisme aussi.
Oui, hein. Exactement.
J'aimerais qu'on entende votre voix. C'est Manon. Vous dites que Manon vous a offert certains des plus beaux moments de votre vie sur scène, mais aussi parmi les plus difficiles. Pourquoi ce rôle, il vous a tellement bouleversée, à la fois comme artiste et à la fois comme femme ?
Ce rôle et ce personnage, elle est avec moi depuis très longtemps, depuis que j'étais étudiante en Nouvelle-Zélande, depuis que j'ai commencé les études en musique pour être chanteuse lyrique. Et j'ai traversé beaucoup de moments avec elle. C'est pour ça que je sens ce lien.
C'est un attachement.
Oui, un attachement très profond avec elle.
Si on fait un petit flashback, vous êtes née en Égypte, vous avez grandi en effet en Nouvelle-Zélande. Et avec vos cousins, vous adoriez rejouer des scènes de vieux films égyptiens. Chansons et chorégraphies incluses, hein, comme celui-ci. J'ose pas prononcer le nom du film, mais
c'est
vous allez faire
Raram Felkarnak.
Alors, dans votre enfance, j'aimerais bien savoir qui faisait la distribution des rôles dans les spectacles.
Ben bien sûr, c'était moi.
Donc, vous vous attribuez déjà les premiers rôles ?
Bah oui.
Quels sont les souvenirs, justement, avec ses cousins ?
La musique a été toujours là et je chantais tout le temps, chez moi, à l'école, pour ma famille. Et on faisait des petits spectacles avec mes cousins où on rejouer les scènes de vieux films égyptiens. Et j'adorais être sur scène et faire des trucs comme ça. Alors...
C'était déjà en vous.
Oui.
Dans cette enfance-là, il y avait aussi une voix immense qui planait, Oum Kalsoum. Avant Bizet, avant Massenet, il y avait ces chansons-là. Et vous acceptez de me faire une reprise éventuellement par vous, comme ça ?
Ok, avec plaisir.
Amina, les micros de France Inter est à vous.
المغنى حياة الروح يسمعها العليل تشفي وتداوي كبد مجروح تحتار الأطباء فيه وتخلي ظلام الليل بعيون حبايب ضاي شوي 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 وغني لي غني وخد عيناي.
Trop de chance. Vous l'aimez comment, votre voix, Amina ? Vous l'avez tout de suite aimée ?
Non, pas du tout. J'aime chanter, mais je suis pas grande fan de ma voix. C'est un peu bizarre, non ?
Vous vous écoutez quelquefois ?
Non, je déteste écouter ma voix.
Bah non, c'est comme les grandes comédiennes. Elles n'ont pas envie de se regarder.
Non.
Vous vivez dans l'instant.
Exactement, oui.
Vous avez en tout cas choisi la musique. Au moment où vous avez un peu tout quitté, vous avez pris un grand risque, ou pas. Votre mère ne vous a pas parlé pendant un moment.
Pendant 6 mois.
C'est énorme.
Oui.
Avec du recul, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ?
C'est un peu difficile à expliquer parce que les parents arabes, comme ma mère, elles voulaient que je cherche quelque chose de plus sérieux, plus stable. Elles trouvaient que la musique, elle n'était pas en carrière.
Mais qu'est-ce qui fait qu'elle s'est décidée à revenir vers vous et à vous parler ? Elle vous a entendu ?
Oui, en fait, elle est venue à Christchurch. Je participais dans un concours de chant. Et je lui ai demandé, peut-être maman, est-ce que tu peux... Juste, viens, et après, tu peux décider si tu veux me parler après ça ou pas. Et elle est venue. Et depuis ce moment-là, c'était...
Elle est au premier rang.
Oui.
Ah, vous partagez votre vie avec le ténor Penepati, oui. À la scène donc comme à la ville. Tout le monde dit que vous êtes le couple goal de la scène lyrique. Et vous avez tout vécu ensemble, même les galères très concrètes, comme ce soir apparemment, un soir où votre robe s'est déchirée en plein spectacle, où il a dû la tenir discrètement pendant que vous chantiez, l'air de rien,
oui.
C'est absolument génial. Chanter l'amour comme ça avec la personne qu'on aime vraiment, est-ce que ça rend les choses plus simples ou est-ce que ça les rend dangereuses émotionnellement ?
Dangereuses émotionnellement, waouh ! Non, non, il est mon partenaire préféré sur scène et dans la vie. Ah, c'est un peu cheesy, ce que je viens de dire.
Non, c'est très mignon.
On est très chanceux de pouvoir faire ce métier ensemble, en fait, et de partager ces moments sur scène et dans la vie.
Alors maintenant, Amina, on revient à Georges Bizet et à Carmen. Donc c'est vrai que c'est l'un des opéras les plus célèbres du répertoire, cette fresque tragique d'amour, de liberté, de destin chanté en français, qui dure environ 3 heures, entr'acte compris. Ça se passe à l'Opéra Bastille à Paris cette saison. Est-ce que vous nous offririez un extrait ?
Bien sûr.
Alors le micro de France Inter est tout à vous.
Je dis que rien ne m'épouvante, je dis hélas que je réponds de moi, mais j'ai beau faire la vaillante, au fond du cœur, je meurs d'effroi.
C'est trop joli. Merci Amina. Merci. Est-ce que vous avez une dédicace ce matin au micro de France Inter ?
En ce moment, j'ai une otite.
Comment vous faites pour chanter avec une otite ?
J'ai une otite horrible et j'entends presque rien du côté gauche. Alors, la dédicace, ça sera à mon ORL.
Ah ben, on l'embrasse très fort.
Oui.
Bravo, merci beaucoup Amina Idriss, que vous pouvez aller voir sur scène. Merci beaucoup.
Merci.
C'est la fin de la grande matinale, c'est la fin du magazine. Merci Amina, merci Daphné. Un mot avec Ali Rebéi sur le programme à suivre juste après les infos.
Bonjour à toutes et à tous. Comment éviter de se faire arnaquer en amour ? Quelles sont les techniques de manipulation amoureuse utilisées par ces imposteurs ? Car il s'agit surtout d'hommes. N'hésitez pas à nous appeler, à témoigner au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France.
À tout à l'heure.